ça ne signifie rien.
Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Tania Rachaud.
Dans ce podcast, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Cette émission est réalisée par Marin Hirsinger et la coordination de l'émission est assurée par Leobardo Arango.
L'Europe, l'Europe, l'Europe!
Nous enregistrons depuis l'hôtel de ville de Nancy, donc avec un son très spécial aujourd'hui, pour un épisode d'une série de 4 sur le thème de la bioéthique, en partenariat avec l'Université de Lorraine, Les Surligneurs et Amicus Radio. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cet épisode et tous les autres sur nos sites internet et les plateformes de podcast. En vous abonnant à la chaîne Amicus Radio, vous serez prévenu de la diffusion de nouveaux épisodes. Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'aborder aujourd'hui un sujet important, c'est celui de la bioéthique en Europe. Et ça, pendant plusieurs épisodes au cours des 2 années à venir. Derrière le mot bioéthique se cachent de nombreuses réalités qui s'intéressent en pratique aux liens entre les recherches sur le corps, le vivant de façon très générale et son encadrement, du coup, pour le côté juriste, qui doit être respectueux de l'éthique. Au niveau international, plusieurs conventions ont été adoptées sur le sujet. D'abord, avec le Conseil de l'Europe, c'est la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, qui est aussi appelée Convention d'Oviedo, qui est très centrale sur le sujet. Elle a été adoptée en 1997 et d'ailleurs ratifiée par la France assez tardivement en 2011. Et elle comprend par exemple le principe de la protection des informations relatives à la santé de la personne, la non-discrimination en raison du patrimoine génétique, le principe de liberté de la recherche scientifique, la protection des personnes se prêtant à une recherche ou encore le consentement des personnes préalablement à toute intervention clinique. Le lien entre les recherches sur le corps et l'éthique est ici bien mis en valeur dans cette convention d'Oviedo. Du côté de l'Union européenne, l'ère post-Covid met l'accent sur la nécessité de protéger la santé et l'environnement, au sens très large donc, des sujets qui peuvent aussi soulever des questions de bioéthique. Et donc pour y voir plus clair, dans ce premier épisode, nous allons discuter avec 3 invités en direct depuis l'hôtel de ville de Nancy. Et nous accueillerons tout d'abord Maria Fartunova, maître de conférence à l'Université de Nancy et titulaire de la chaire Jean Monnet EU Bioethics, bioéthique et gouvernance européenne, qui a justement organisé cette conférence inaugurale à laquelle nous nous trouvons. Puis nous discuterons du lien entre intelligence artificielle et bioéthique pour finir sur la dimension environnementale du sujet.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.
Bonjour Maria Fartunova, merci déjà de nous recevoir à l'hôtel de ville de Nancy pour discuter d'un sujet qui est donc important pour nous tous, celui de la bioéthique. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lorraine et vous avez donc obtenu une chaire Jean Monnet pour vous intéresser à la bioéthique et à la gouvernance européenne. Alors finalement, on a envie de vous demander pourquoi ce sujet de la bioéthique ?
Alors, le sujet de la bioéthique et gouvernance européenne, s'est imposé à moi, puisque depuis une dizaine d'années, je me spécialise sur ces questions et surtout, je me suis intéressée à la façon dont l'Union européenne, donc son droit, saisit la question bioéthique, ce qui n'est pas intuitif dès le départ, dans la mesure où l'Union a toujours été présentée comme ces deux sujets comme complètement antinomiques. D'un côté, le marché, de l'autre, la bioéthique, avec la protection des valeurs non marchandes que véhicule le corps humain. Progressivement, ce premier constat, quelque peu négatif, a été complètement déconstruit, notamment avec l'avènement de la libre circulation des patients. Et la porosité qui peut exister et l'étanchéité qui peut exister entre les États membres sur les questions bioéthiques a progressivement remis en question le caractère absolutiste, en quelque sorte, du choix national.
Donc l'Union européenne s'est intéressée aux questions de bioéthique par la porte des patients, finalement.
Exactement.
Très pragmatique. Quoi.
Exactement, très pragmatique. Et d'ailleurs, le premier arrêt, c'est au travers la libre prestation des services, puisqu'on sait que le soin médical est un service médical, est un service au sens des traités, et notamment dans l'arrêt Grogan de 91, au sujet de la pratique de l'intervention d'une intervention médicale d'un volontaire de grossesse. Et en Irlande, et donc la Cour de justice a dû se prononcer que l'IVG est un service au sens des traités, mais que chaque État demeurait libre de légaliser ou de légiférer sur la question. Donc c'est le paradoxe en quelque sorte qui travaille le droit de l'Union européenne dans ce contexte-là. D'un côté, on a l'approche très économique, et de l'autre côté, une demande des patients d'accéder à des soins de meilleure qualité ou bien de mettre en concurrence des choix éthiques de leur propre État. Et cela se confirme aussi aujourd'hui de manière plus frappante. On est en 91, maintenant en 2023, il y a près d'une trentaine d'années qui se sont écoulées. C'est l'avènement de ce qu'on appelle la libre circulation des patients. Et cela s'est acté dans une directive de 2011-2024 qui, justement, consacre ce droit et permet aux citoyens européens de voyager non seulement pour profiter du marché intérieur, mais aussi de l'offre de soins qui est peut-être plus efficace dans un autre État membre. Et donc forcément, on a un conflit de choix éthiques qui se pose. Et à partir de ce moment-là, l'Union européenne et la gouvernance de la bioéthique ne peut plus se faire qu'au niveau national. Les acteurs européens doivent s'en saisir et ils s'en saisissent également.
Donc une arrivée par la petite porte, quoi. C'est assez classique dans l'Union européenne. Hein. On avait ça, la méthode des petits pas.
Mais exactement.
Et encore, est-ce que c'est des petits pas ou c'est juste finalement frontalement, il n'y a pas eu le choix de ne pas s'en saisir?
Je pense que c'est un choix politique dès le début. Et quand on regarde la nature de la compétence de l'Union en matière de santé, c'est exactement ce qui saute aux yeux. Il a fallu avoir la pandémie liée au Covid-19 pour s'en rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, non seulement au niveau des États, mais aussi au niveau de l'Union, et qu'il fallait avoir cette approche plus globale de la question bioéthique et de la question éthique, dans la mesure où la santé, la politique de la santé, ne peut plus se penser indépendamment d'un système politique fondée sur des valeurs communes. Et le droit qui va venir réguler cette situation-là, puisqu'on est en demande de droit pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, donc il n'est pas axiologiquement neutre, contrairement à ce qu'on pense souvent, dans la mesure où le droit doit être neutre. Non, il ne l'est pas
non,
dans le domaine de la
santé.
Exactement,
choix éthique des valeurs.
Exactement,
en fait.
Choix éthique des valeurs. Ouais. Et c'est la transcription, ce que je disais tout à l'heure, dans son espace, de son espace juridique, où le débat va être différent. Voilà.
Et alors, qu'est-ce qu'on envisage pour la suite dans le cadre
alors,
de l'Union européenne?
Alors, pour la suite, et c'est complètement utopique de penser, d'ailleurs, c'est absolument pas l'idée que je défends et dans le cadre des activités de la chaire, c'est qu'il me semble que ce n'est pas l'harmonisation ni le rapprochement, c'est une prise de conscience collective qu'il y a derrière des valeurs communes qui vont dicter et qui vont encadrer la recherche médicale responsable en Europe en vue d'établir une union de santé, et que cela ne se fait pas simplement à travers un acte ou une loi, une directive, un règlement, mais que c'est du quotidien. L'autre difficulté qui est derrière, c'est que le droit qui va en résulter, c'est un droit de la régulation administrative, c'est-à-dire comment concilier l'éthique avec la technicité du droit. Mais quel choix a-t-on par la suite pour faire évoluer les mécanismes dans lesquels ces questions vont se poser?
Donc c'est un vrai sujet d'avenir pour cette chaire, dont on sera ravis de suivre les travaux. Et d'ailleurs, dans cette conférence inaugurale, il y a plein d'autres sujets qui sont abordés et qu'on va envisager avec vos invités, hein, sur l'intelligence artificielle et la bioéthique. D'ailleurs, l'Union européenne s'est saisie de la question de l'intelligence artificielle.
Très récemment, d'ailleurs.
Voilà. Et plus largement, de l'environnement qu'on envisagera.
C'est exactement cette démarche-là pour dire que la bioéthique, cette conception, on est aujourd'hui revenu à un concept initial défendu par un pasteur allemand. Il avait pensé de la bioéthique comme bridge to the future, et donc une bioéthique globale, rapport au vivant, et non seulement à l'humain, mais c'est à la suite de la Seconde Guerre mondiale que cette, et le code de Nuremberg de 1947, que cette restriction, que cette restriction de la notion de bioéthique a fait émerger pour des raisons qu'on peut comprendre. Et ensuite, donc aujourd'hui, on se retrouve sur le devant de la scène encore avec la stratégie de la commission One Health. Voilà, One Health.
On en reparlera peut-être dans des prochains épisodes avec vous. Merci beaucoup, Maria Fartounova. Vous êtes donc maître de conférence à l'Université de Lorraine et titulaire de sa chaire Jean Monnet EU Bioethics, qu'on suivra avec grand intérêt. Merci.
Merci beaucoup, Tania. Merci à vous, les surlineurs. Merci beaucoup à nos amis de l'Amicus Radio, dont je suis très heureuse d'accueillir encore une fois à Nancy. Merci beaucoup.
Alors, pour continuer notre exploration de cette thématique de bioéthique qui nous retient dans cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir le docteur Aurélien Benoît-Lide, qui est médecin neurologue et président du Forum européen de bioéthique. Bonjour docteur.
Bonjour.
Donc, vous traitez ce matin du sujet de l'intelligence artificielle et de la bioéthique. Alors, bon, de prime abord, on ne voit pas nécessairement le lien entre des algorithmes et notre corps humain. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ?
Oui, bien sûr. Alors, de prime abord, on ne voit peut-être pas tout de suite le lien qui existe entre les deux, mais je vous assure que vous le verrez quand vous serez vous-même patient ou patiente et que vous allez devoir bénéficier d'un diagnostic ou d'une prise en charge qui sera gérée par les algorithmes. Et donc, en réalité, on voit dès aujourd'hui que la révolution d'intelligence artificielle, elle affecte tous les domaines d'activité, mais le secteur de la santé est très important, tant sur le plan de la recherche, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va parfois guider la main du chercheur ou le cerveau du chercheur dans les découvertes, mais bien sûr aussi dans la prise en charge, c'est-à-dire dans l'aide au diagnostic, dans l'aide aux thérapeutiques. Et donc c'est présent dans quasiment toutes les disciplines qui ont attrait à la santé humaine. Donc l'enjeu est majeur parce que tout ça se fait un peu par devers les instances, par des applications, par des stratégies qui ne sont pas forcément commanditées par les hôpitaux, les universitaires. Et tout ça s'impose à nous. Et dans quelle mesure est-ce que ça peut avoir un impact ? C'est les questions qu'on essaie de se poser.
D'accord, donc des algorithmes existent déjà sur les questions de santé, en lien avec les questions de santé, sont appliqués dans les hôpitaux, mais pas forcément commandés par les hôpitaux, c'est ce que...
Disons que l'hôpital va ensuite se servir de ce qui existe, mais la question de savoir qui est derrière la création, l'invention de ces algorithmes, ça c'est encore une autre question, mais on se rend bien compte que même des logiciels communs comme ChatGPT commencent à avoir un intérêt dans l'aide au diagnostic, dans la manière dont on peut annoncer un diagnostic à des patients, dans la manière dont on va pouvoir aussi entourer les patients, les étudiants en santé dans leur apprentissage. Enfin, tout ça est assez vertigineux.
D'accord. Et donc, ce serait intéressant que l'hôpital public soit lui-même commanditaire d'intelligence artificielle, d'algorithme pour que...
Ça, c'est un très vaste sujet. Parce qu'au-delà de l'hôpital public, on peut se poser la question de la France, on peut se poser la question de l'Union européenne. Et bien sûr, c'est un enjeu qui est international. C'est à celui qui ira le plus vite, qui va avoir l'intelligence artificielle la plus efficace. Et le problème en matière de santé, c'est qu'à partir du moment où on a quelque chose d'efficace, on va tendance à avoir envie de se l'approprier, ce qui est bien normal, sauf qu'on ne sait pas toujours qui est à l'origine de ces algorithmes. Il est parfois bien difficile, même pour les gens qui s'y connaissent, de savoir un petit peu quels sont les mécanismes à l'œuvre dans ces algorithmes. Et donc, tout ça, c'est des questions de régulation, de qui va être responsable aussi des erreurs peut-être commises ou des répercussions de ce que ces algorithmes vont avoir dans la santé des individus. Donc, beaucoup de questions auxquelles on va essayer de répondre effectivement au Forum européen de bioéthique.
Oui, vous l'avez mentionné, le niveau européen est intéressant puisque l'Union européenne, les institutions de l'Union européenne sont parvenues à un accord dans la réglementation de l'intelligence artificielle tout récemment. À l'heure où on enregistre cet épisode, c'était même il y a quelques jours.
Tout à fait.
Maintenant, c'est une première réglementation mondiale finalement sur l'intelligence artificielle, mais qui reste quand même modeste, je pense. Et en tout cas, dans ce que vous mentionnez, il me semble qu'il y a assez peu d'éléments sur la transparence de l'algorithme ou de l'ouverture de l'algorithme.
algorithmes.
Oui, et puis simplement aujourd'hui, les algorithmes, on leur donne de quoi manger au départ, et puis ensuite, ils sont presque autonomes. Donc, c'est très difficile à réglementer. Donc, il y a des efforts qui sont faits par l'Union européenne, et on peut vraiment les saluer parce que c'est les premières pierres, on va dire, d'un édifice qu'on est en train de mettre en place. Mais en revanche, le défi qui nous attend est vraiment tout à fait titanesque.
Et alors, donc, vous êtes président du Forum européen de bioéthique. Que faites-vous exactement dans ce forum ?
Eh bien, chaque année, on essaye de décliner un certain nombre de thématiques bioéthiques à travers le prisme de l'actualité. C'est-à-dire que, là, cette année, s'est imposée à nous la question d'intelligence artificielle, parce que tous les domaines de l'activité, mais notamment les aspects liés à la santé, liés à l'évolution des sciences et des techniques, et des répercussions sociales que cela peut avoir sur l'être humain, sont très présentes, et la bioéthique, c'est un peu ça. C'est une manière de mettre du sens, de mettre une couleur aux avancées scientifiques pour essayer d'éviter les écueils du passé et essayer justement de construire un avenir dans lequel on va humaniser cette intelligence qui a parfois tendance à devenir de plus en plus artificielle au gré des découvertes.
Et comment est-ce qu'on peut mettre du sens dans un algorithme ?
C'est très compliqué, je pense qu'on ne peut pas mettre du sens dans un algorithme. Ou en tout cas, c'est dangereux de penser qu'on peut mettre du sens dans un algorithme. Et puis, un algorithme qui va avoir du sens en Chine ne va pas forcément avoir le même sens en France. On n'a pas la même éthique, on n'a pas la même morale, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même culture. Et le problème, c'est de vouloir imposer une éthique universelle à l'ensemble de tous les continents et à l'ensemble de tous les êtres humains. Ça risque d'être très problématique. Et évidemment, c'est quelque chose qui se pose, une question qui se pose régulièrement. Quand vous avez une voiture autonome et que cette voiture doit être amenée à faire un choix, écraser plutôt une femme enceinte ou écraser plutôt une personne âgée, eh bien le choix ne va pas être le même et on ne peut pas laisser le hasard décider. Donc il y a de partout dans le monde des gens qui se posent la question et qui ont des réponses différentes à ces questions algorithmiques, qui sont des questions philosophiques qui datent de la nuit des temps, mais chacun n'a pas la même réponse, donc il n'y a pas de caractère très universel, c'est là le problème.
Mais les algorithmes, eux, n'ont pas vocation à s'appliquer que sur un territoire précis. Donc finalement, de fait, des algorithmes créés peut-être en Chine vont peut-être s'appliquer en France,
oui,
avec,
alors,
comme vous le dites, un sens de l'éthique qui est différent d'une autre.
Mais il y a des aspects éthiques qui sont discutés. Là, on parlait par exemple des voitures autonomes. Eh ben, il va y avoir probablement des choix différents qui seront opérés en Europe ou sur le continent asiatique. Et donc ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître, parce qu'on s'engage dans une voie qui est à la fois très impressionnante, avec beaucoup de promesses, mais avec aussi un certain nombre de risques qu'il faut appréhender.
D'accord. Et donc, dans ce forum européen, vous avez des conférences annuelles, c'est ce que vous nous expliquez, et donc vous allez débattre particulièrement du sens de l'intelligence artificielle.
Ben voilà, on va parler de ce que c'est que l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle. On va voir un peu de quelle manière est-ce qu'on peut réguler ça à travers une région, une ville, un pays, une nation, un continent. On va se poser les questions, effectivement, de la médecine augmentée, de la médecine guidée par l'intelligence artificielle. Là aussi, c'est un domaine qui est en pleine expansion, et puis savoir est-ce qu'on acceptera de se faire soigner plutôt par une intelligence artificielle, et si il y a un problème, qui sera tenu pour responsable, est-ce que ça sera le codeur du logiciel, est-ce que ce sera l'administration hospitalière, est-ce que ce sera l'utilisateur. Donc tout ça sont des questions très importantes. La question, on va toujours un peu plus loin dans le domaine de la du Forum européen de bioéthique. On va se poser la question aussi de la créativité, on va se poser la question de l'intelligence artificielle qui peut être utilisée aussi comme une arme, que ce soit une arme politique ou une arme réelle ou une arme d'influence dans le domaine de l'information. Ce sont un peu toutes ces questions, c'est-à-dire comment les bouleversements liés à l'avènement de l'intelligence artificielle vont nous impacter, nous, directement, citoyens du monde, dans notre santé, mais aussi dans notre activité.
L'intelligence artificielle, on ne pourra pas la freiner ou l'arrêter complètement. Et puis, ce n'est pas souhaitable, en fait. C'est souhaitable, au contraire, de la faire évoluer positivement. Et de,
je vous pose la question. Je pose la question aux auditeurs. C'est une vraie question. Est-ce qu'il faut la freiner ? Est-ce qu'il faut la laisser aller n'importe où, n'importe comment ? Est-ce qu'à la manière d'Elon Musk, il faut chercher plutôt une intelligence artificielle qui n'aura pas de limites ? Nous, on a des limites. Tous les jours, dans la vie quotidienne, on interagit avec les gens avec un certain nombre de codes, de limites. On a la dignité humaine qui est un phare dans l'obscurité. Mais si on décide d'avoir une intelligence qui fait fi de tous ces codes moraux, on risque d'avoir un certain nombre de surprises et probablement des très mauvaises surprises. Donc oui, humaniser, donner un peu de couleur et d'humanité aux évolutions techniques, c'est ce qu'on essaye de discuter au Forum européen.
Et je suis certaine qu'on en discutera dans le futur à nouveau, un sujet qui ne risque pas de s'arrêter demain, l'intelligence artificielle et la bioéthique. Merci beaucoup, docteur Aurélien Benoalid. Donc, vous êtes médecin neurologue et président du Forum européen de bioéthique. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Eh bien, pour rester un peu prolongé le sujet de l'intelligence artificielle, vous venez d'écouter un son qui a été justement produit par une intelligence artificielle.
L'Europe.
Nous sommes ravis de continuer cette exploration sur les sujets de bioéthique en écoutant maintenant le professeur de droit public à l'Université de Lorraine, Jochen Zonle, qui lui aborde eh bien, la question de l'éthique environnementale au cours de la conférence du jour. Alors, est-ce que vous pouvez finalement nous expliquer comment les questions de bioéthique s'inscrivent dans les sujets environnementaux ?
Alors, d'abord, je vais commencer à expliquer ce que c'est l'éthique. Hein. Donc, c'est une discipline qui s'intéresse à aux conduites humaines, hein, comme le droit. Donc, ça pose aussi des normes. Et ce qui nous intéresse, c'est l'articulation entre les normes de l'éthique et les normes du droit. Alors, moi, je suis spécialiste en droit de l'environnement, donc l'éthique environnementale m'intéresse beaucoup. Donc, en éthique environnementale, il faut distinguer l'éthique de la nature et l'éthique environnementale, ce qui me mène à la définition ce que c'est l'environnement et la nature. Donc, l'environnement, c'est un terme anthropocentré, hein, donc ça veut dire environné, qui est environné, c'est l'être humain. Alors que la nature, là, on a plutôt l'idée qu'on fait abstraction de l'être humain. Donc il y a une éthique de la nature qui n'est pas anthropocentrée et l'éthique environnementale qui est plutôt anthropocentrée. L'environnement, c'est essentiellement les éléments qui nous entourent, comme l'eau, l'air, le sol et surtout la biodiversité. Donc l'éthique environnementale, c'est en quelque sorte les conduites humaines qu'on adopte face à ces éléments-là. Hein, donc la conduite humaine face à la biodiversité, face à l'eau, face à l'air, face au sol, donc y compris au changement climatique, par exemple.
Oui, donc c'est vraiment en fait l'essence des questions environnementales, hein, notre rapport profond en tant qu'humain, comme vous venez de l'expliquer, aux éléments de la nature.
Exactement.
Et donc vos travaux portent sur quels aspects de l'éthique environnementale ?
Alors dernièrement, je travaille surtout avec moi j'ai une formation de juriste principalement, même si j'ai fait des études de philosophie aussi, mais je travaille avec des philosophes. Et dernièrement, donc on est en train d'écrire un livre qui s'appelle Éthique environnementale pour juristes. Donc c'est un ouvrage collectif. La moitié des contributions sont apportées par des philosophes et l'autre moitié par des juristes.
D'accord. Effectivement, on ne peut pas se passer de la philosophie puisque on interroge profondément ce rapport et le droit s'en saisit de façon, comment dire, je ne sais pas si c'est ponctuel, mais ou peut-être un peu trop tard ou a posteriori. Alors là, dans les questions environnementales particulièrement, est-ce que le droit ne se saisit pas déjà quand les dommages ont été causés ? Vis-à-vis de la nature.
Voilà, le droit, il a deux fonctions. Hein, il est préventif et palliatif. Donc préventif, certaines normes ou la plupart des normes idéalement devrait être préventive, donc prévenir le dommage à l'environnement pour qu'il ne se produise pas. Mais malheureusement, on ne peut pas toujours l'éviter. Dans ce cas-là, c'est palliatif. Dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle la responsabilité juridique. Donc ça engage l'auteur d'un dommage de réparer le dommage qu'il a causé. Ce qui veut dire le droit, il règle à la fois les deux, la prévention et la réparation par la suite. Donc c'est vrai, il intervient en aval, mais idéalement, il faudra éviter le dommage.
Donc ça veut dire que le principe de précaution, qu'on connaît parce qu'il est dans la charte de l'environnement en France, fait partie des questions d'éthique environnementale ?
Effectivement, le principe de prévention et de précaution qu'on distingue. La prévention, c'est lorsque je sais d'une manière certaine que le dommage va se produire, donc un produit toxique, je sais que lorsque je le déverse dans la nature, il va polluer. Le principe de précaution, lorsqu'il y a une incertitude scientifique, donc s'il y a seulement, lorsqu'on parle en termes de probabilité, on peut l'interdire quand même, mais le seuil d'interdiction, donc qui intervient effectivement en amont, il est plus élevé, donc c'est plus strict pour interdire une activité, une substance, au titre de la précaution que la prévention, parce qu'il y a une certaine incertitude.
Oui, d'accord, et donc on peut le lier à l'éthique.
C'est effectivement lié à l'éthique, effectivement. Et d'une manière générale, le droit, donc il faut regarder la relation qu'entretient le droit avec l'éthique. Donc il y a plusieurs courants parmi les juristes. Il y a les juristes qui ne s'intéressent qu'aux normes qui existent, qu'on appelle le positivisme, non ? Et il y en a d'autres, une école à laquelle je me rattache plutôt, qui prennent en compte également des normes extra-juridiques qui doivent inspirer les normes juridiques, et c'est l'éthique justement. Donc l'éthique, elle est élaborée par des philosophes, par des penseurs qui ne sont pas forcément juristes et qui devraient, à mon avis, mais bon, ça c'est maintenant déjà une position, une école, non, à l'intérieur du droit, que le droit doit prendre en compte les enseignements de l'éthique.
Oui, c'est le juste naturalisme aussi, finalement.
Vous l'avez exactement dit. Le juste naturalisme veut dire, ça s'oppose au positivisme, exactement. Le juste naturalisme, qui n'est pas forcément religieux, qui peut être rationaliste. Moi, je suis plutôt rationaliste, qui se rattache donc à une éthique qui convainc par des arguments. Et donc, lorsque les arguments en éthique sont convaincants, à mon avis, il faut les transposer en droit.
Oui, donc ça veut dire que finalement, les juristes juste naturalistes s'inscrivent dans la nature, en fait. Quelque part, eux-mêmes, comment on pourrait dire, prennent en compte leur environnement, la nature, pour la traduire ou la comprendre et la normer, en fait. Donc oui, vous avez raison, c'est très philosophique comme considération, mais c'est intéressant et de voir à quel degré les normes aussi peut-être s'en saisissent, arrivent à s'inscrire dans un reflet de la nature aujourd'hui. C'est difficile d'avoir ce recul, peut-être. Est-ce que les normes environnementales vont dans le bon sens, du coup, de cette nature aujourd'hui ? C'est très philosophique, une question très large, mais voilà, pour avoir juste une idée de est-ce qu'on pourrait aller plus loin ?
Oui, bon, ça c'est une question délicate. Donc d'abord, pour rejaillir sur le droit naturel, pourquoi ça s'appelle droit naturel ? Parce qu'effectivement, le premier courant juste naturaliste, il date des anciens Grecs, donc d'après Aristote, le droit idéal doit être conforme à la nature. Et ce n'est pas pour rien qu'on parle à la fois d'une loi au sens juridique, la loi des finances, mais aussi les lois naturelles, la loi de la gravité. On n'utilise pas par hasard les mêmes termes, alors que c'est des domaines différents. Donc le droit naturel, dans le sens original, dit « mais il faut appliquer les normes de la nature, comme la loi de la gravité ou la loi comment pousse un arbre naturellement, par exemple. » Et ensuite, avec Saint Thomas d'Aquin, le droit naturel a pris une connotation religieuse, et avec Kant et le rationalisme, les Lumières, finalement, une connotation rationaliste. Donc, pas forcément de lien avec la nature, mais plus récemment, donc on refait le lien avec la signification initiale de la nature. Et vous avez raison, c'est difficile de l'appliquer. Beaucoup de normes, à mon avis, du droit de l'environnement ne correspondent pas avec les principes qui sont prônés en éthique environnementale.
D'accord, donc il faudrait les revoir davantage, les relire dans un cadre juste naturaliste, mais c'est aussi peut-être ce que vous proposez dans cet ouvrage collectif.
Exactement.
De se réinterroger sur les normes environnementales en lien avec l'éthique. Donc on a hâte de retrouver cet ouvrage collectif qui sera publié, vous le savez ?
Oui, donc il est en train, donc il y aura trois versions, hein, une française, une anglaise et une en langue espagnole. Et la version française, elle est en train d'être imprimée, la version anglaise et espagnole. Il faut encore travailler dessus.
D'accord, parfait. Bah, écoutez, on lira avec grand intérêt cet ouvrage et on vous informera aussi de sa publication, bien sûr, pour le suivi. Merci beaucoup, Jochen Zonle, professeur de droit public à l'Université de Lorraine, d'avoir été avec nous pour discuter un peu de l'éthique environnementale dans le cadre aujourd'hui de la chaire, de la conférence inaugurale de la chaire bioéthique qui nous amène aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci à vous, c'était un plaisir pour moi.
Merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et sur celui des Surligneurs. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur les plateformes de podcast pour être tenu au courant des prochaines diffusions. Et pour l'actu, eh bien, suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.